de la veuve. D'abord, je veux vous parler d'autre chose complètement. Saviez-vous que Cheryl et moi, on a été mariés le 17 décembre 1994, le même jour et dans la même ville que Céline Dion et René Angélil? Saviez-vous ça? Oui. Deux mariages royaux, le même jour et dans la même ville. Incroyable. Montréal a été béni. Et alors donc, Céline Dion, la plus grande chanteuse probablement que le Québec et possiblement le Canada tout entier a jamais produit, superstar. Et en fait, revenons à Cheryl et moi. Donc, on a prévu un souper de répétition de mariage le vendredi soir. Le 17, c'était un samedi, mais le vendredi soir, on a fait une répétition dans l'église et la tradition veut qu'il y ait un souper spécial, un banquet pour tous les participants de la répétition. On avait réservé un restaurant réputé de Montréal pour ce repas-là. Et avec mes parents, parce que c'est la tradition aussi, c'est que c'est la famille du marié qui s'occupe de ce banquet-là. Puis là, celui du mariage lui-même, c'est la famille de la mariée qui s'en occupe. Alors, ma mère et Cheryl et moi, on est allés au restaurant pour signer le contrat avec le restaurant. Et on a vu que, oh, les choses avaient changé. On avait discuté au téléphone, on avait réservé, et ils ont changé la réservation. Et ils nous ont amenés dans une petite salle, alors qu'on avait réservé la grande, la belle salle à manger principale. Ils ont dit, on a des problèmes et on doit changer, on vous offre cette petite salle. Et malheureusement, le menu que vous pensiez avoir, le menu comme normal, n'est pas disponible non plus à cause des problèmes. Ils ne nous ont pas dit quoi. En tout cas, ils ont essayé de nous convaincre que nous restions leur priorité. Ils voulaient que tout se passe bien pour nous. Mais on sentait qu'il y avait quelque chose de pas tout à fait transparent là-dedans. Et finalement, on n'a pas signé le contrat parce qu'ils n'ont pas gardé parole. On a trouvé un autre bon restaurant et finalement, tout s'est bien passé pour notre mariage et notre veille de mariage. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire? Bien, c'est parce que je veux illustrer le fait que des fois, nous, les êtres humains, oui, des fois, on offre le maximum de nous-mêmes à quelqu'un parce que ce quelqu'un est vraiment notre priorité numéro un et ça vient du cœur et on donne tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a. Mais des fois, on offre à quelqu'un seulement de notre superflu, seulement les ressources qui nous restent parce que notre maximum est allé ailleurs ou à quelqu'un d'autre. Et des fois, malheureusement, on va faire semblant que comme on sentait que le restaurant a fait, on fait semblant qu'on donne notre maximum alors qu'en réalité, on donne de notre superflu. Et en réalité, on a appris par la suite que ce restaurant-là, le premier, ils avaient été choisis par Céline Dion et son mari pour s'occuper de la réception de mariage, de leur mariage. Donc, on a deviné, ils étaient complètement mobilisés par cet autre contrat qui était plus important pour eux. Et des fois aussi, malheureusement, et ça arrive dans notre relation avec Dieu, on se fait à croire qu'on est en train de donner notre maximum, tout ce qu'on peut, alors qu'en réalité, on est en train de donner de notre superflu, de notre extra, parce que toute notre énergie va ailleurs et pas à Dieu, mais on s'en rend même pas compte. Alors, si nous, les humains limités, on peut détecter des fois ce type de est-ce que j'oserais dire hypocrisie, ce type de duplicité, combien plus Dieu avec nous? Combien plus Dieu est capable de voir si vraiment nous sommes entiers ou si nous donnons seulement de notre superflu, peut-être sans que nous-mêmes on s'en rende compte. Et c'est cette réalité sur laquelle Jésus attire notre attention. Et merci à Wenchel de nous l'avoir lu et d'avoir préparé une leçon de choses. Dans ma relation avec Dieu, est-ce que je donne mon maximum ou est-ce que je donne seulement de mon superflu? Je dis dans ma relation avec Dieu, parce que ça s'applique pas juste à mon argent, ça s'applique à mon argent, oui, mais à d'autres domaines aussi. Tous les domaines de ma vie. Mon engagement pour un célibat, par exemple, selon Dieu, si je suis célibataire. Mon choix de conjointe ou de conjoint, si c'est ça l'étape où je suis rendu. Ma façon d'être dans la vie de famille, ma disponibilité pour être un témoin avec mes contacts qui ne sont pas encore chrétiens, mon éthique avec l'argent pour payer mes impôts, je pourrais continuer. Jésus cherche des personnes qui sont prêtes à lui donner, non pas de leur superflu, mais tout leur être. Es-tu prêt? Es-tu prête à tout donner à Dieu? Peut-être que tu vas me dire non, peut-être que tu vas me dire je ne sais pas, mais on s'entend, on a tous besoin d'apprendre. Jésus veut nous enrôler dans son école pour que nous apprenions, parce qu'il veut développer en toi et en moi des personnes prêtes à lui donner non pas juste leur superflu, mais tout. Es-tu prêt? Es-tu prête? Revenons au texte maintenant. Il y a des questions qu'on peut se poser en écoutant, en entendant ce texte. Et moi, en l'étudiant, il y a des questions qui me sont venues. Alors, la première question, c'est le comportement de Jésus lui-même dans cette situation. J'observe que Jésus fait plusieurs choses ici que lui nous demande à nous de ne pas faire. Il nous demande, nous, de ne pas faire ce que lui fait. Et ça m'a chicoté. Il s'assoit dans le temple, non pas pour adorer Dieu, mais pour observer le comportement des autres. Il va les juger, il va les comparer entre eux. Il va regarder leur manière de donner. Si jamais quelqu'un venait ici à l'Oasis, quelqu'un qui se dit « ben je suis chrétien » et vient ici et avait le même comportement, je lui poserais la question « Est-ce que tu es Jésus-Christ revenu en personne sur la terre? » Et si la personne me dit « Non, je suis pas Jésus », j'espère qu'il va me dire non, parce que s'il me dit « Oui », là, c'est une toute autre conversation qu'il faut qu'on ait. Mais s'il me dit non, je lui dirais, mais toi, ce n'est pas ta job. Ça, c'est la job de Jésus d'évaluer la valeur de ce que les gens font dans l'Église. Toi, ta job, tu es ici pour adorer, pour apprendre, pour servir et encourager les autres en les acceptant quels qu'ils sont. C'est vrai qu'il y aura toujours une place, il y a toujours une importance à discerner le bien du mal, et même à amener une critique constructive. Il y a toujours un bon moment qui vient pour cela, mais ce n'est pas le but premier que tu es ici. Tu es ici, je le répète, pour adorer, apprendre, encourager et servir les autres tels qu'ils sont. Et on peut résumer le principe qui vient de l'enseignement de Jésus pour nous, notre vie dans la maison de Dieu, dans le peuple de Dieu, dans la Nouvelle Alliance. Sois sévère envers toi-même. et indulgent envers les autres. Sois sévère envers toi-même et indulgent envers les autres, toujours conscient de la grâce de Dieu. Sévère envers toi-même, indulgent envers les autres, toujours conscient de la grâce de Dieu. Alors, la question se pose, donc, pourquoi Jésus est-il venu dans le temple et il s'est comporté en critiqueux? Alors, je vais mentionner trois choses ici. D'abord, son identité est unique. Il est Dieu devenu homme. Il est venu parmi nous, entre autres, pour nous révéler la réalité de nos cœurs. Il est venu pour nous sauver avant tout. Et c'est vrai que quand on le voit, on est frappé surtout par sa compassion, sa miséricorde, sa patience, son amour. Mais quand c'est le bon moment, il va critiquer et c'est toujours seulement selon le jugement de Dieu lui-même. Dans l'épisode de Marc qui précède celui qu'on vient de lire avec la veuve, Jésus fait un enseignement qui dit ceci: faites attention aux scribes. Et les scribes faisaient partie des autorités religieuses de l'époque. Et lui arrivait à un moment où c'était le moment de critiquer. Et il a dit, je vois une réalité cachée d'une institution religieuse qui est corrompue. Et les gens ne s'en rendent même pas compte. Le superflu dans le don de soi-même est devenu la norme. Et les scribes, c'est eux qui enseignent. Donc, l'obéissance a beaucoup de règlements où on est passé de la relation intime et entière avec Dieu à quelque chose de plus superficiel et de superflu. Quelque chose qui est devenu hypocrite. Lui, il disait, mais en fait, je vois que, et c'est bon pour nous de l'entendre, parce que ça, c'est les humains. C'est ce que nous, on fait de la religion, de la spiritualité, quand l'Esprit-Saint n'est pas là pour nous protéger, nous guider. Mais il dit, voilà, ce qui les intéresse vraiment, c'est pas la relation avec Dieu, c'est la popularité, l'honneur des autres humains, l'autorité dans la communauté et l'argent. Et l'argent. Alors, ça, c'est un élément important. Son identité est unique. Il a le droit. Ensuite, le contexte de sa mission. Il sait que dans quelques jours, le système de religion centrée sur le temple à Jérusalem va être remplacée par une nouvelle alliance en son sang. Il va mourir et son sang va couler pour établir une nouvelle alliance. Sa mort va être expiatoire pour toi et pour moi. Et tout de suite après l'épisode de la veuve, quand on continue de lire, on voit qu'il sort du temple avec ses disciples et eux, et il se retourne puis il voit, waouh, comment c'est beau, comment la cathédrale, le temple, il est magnifique. Les pierres sont massives et la construction, parce qu'il est, le temple était encore en construction durant la vie de Jésus. C'était vraiment actif et enthousiaste et waouh, les gens étaient encouragés. Et Jésus leur dit, je dois vous dire que tout ça va être détruit. Bientôt. Tout ça va être détruit bientôt. Et il avait raison. 40 ans plus tard, les Romains sont venus détruire le temple qui n'a jamais été reconstruit depuis. Mais quelques jours plus tard, Jésus va mourir, ressusciter, monter au ciel et établir un autre temple, même avant que le premier soit détruit. Et ce temple, c'est nous. Donc lui, la pierre rejetée, tuée, devient la pierre principale du nouveau temple. Et nous tous qui croyons en lui, qui nous attachons à lui, on embarque un peu sur lui, sur le nouveau temple, C'est invisible, mais c'est ça qui arrive. Et nous devenons des pierres vivantes. L'Esprit-Saint vient vivre en toi. Et toi, tu es une pierre, mais tu restes sur tes deux jambes. Jésus t'envoie ailleurs. Il t'envoie dans le monde entier. Donc, le nouveau temple n'est pas fait de murs. Il n'est pas fait de pierres. Il est fait d'êtres humains transformés qui sont des pierres vivantes et qui vont dans le monde témoigner de Christ. Amen. Alors, Jésus est en train d'établir cette nouvelle alliance et cette fin arrive dans quelques jours. Et puis finalement, Jésus est différent parce que sa destinée, il sait qu'il va mourir dans quelques jours, il va tout donner. Et lorsqu'il voit cette femme, cette pauvre veuve qui donne tout ce qu'elle peut, il se dit, ça, c'est une prophétie de ce qui va bientôt arriver. Comme Mélodie a expliqué la semaine dernière, des fois, on pose des gestes qui sont significatifs du plan de Dieu. On peut dire qu'ils sont prophétiques. Elle prophétisait sans s'en rendre compte du don total que Jésus va donner pour l'humanité. Et c'est pour ça que Jésus enseigne à ses disciples à partir de ce que cette femme fait. Et toi, es-tu prêt? Es-tu prête à tout donner à Dieu? Une autre question. Pourquoi le geste de cette veuve est-il si important pour Jésus? Donc, première chose, c'est que quand il appelle les disciples, premièrement, il les appelle et il dit, en vérité, je vous le dis. Chaque fois qu'il dit ça, ça veut dire, écoutez bien, c'est vraiment important. Et eux vont vont l'écrire dans les évangiles, ils vont le transmettre à nous. En vérité, je vous le dis. Et c'est par rapport à ce que cette veuve a fait. Selon nos yeux humains, cette femme, cette veuve, devait être ignorée et passer inaperçue. Elle est insignifiante. Premièrement, elle est pauvre, pas forcément agréable à regarder. Elle est peut-être vieille aussi. Dans la religion humaine, et je dirais même dans les églises chrétiennes, quand on regarde les choses d'une perspective humaine, bien, l'important dans la collecte d'argent, c'est d'en ramasser le plus possible. On a des objectifs financiers à atteindre. Et dans le cas ici du temple, c'était de finir la construction. C'était financer les sacrifices, payer les salaires, payer les impôts et tout le reste. Point de vue humain encore, on n'a pas besoin de ta petite offrande ridicule. C'est un peu comme ce que j'ai mis dans la boîte tantôt quand Timothée est venu. Je ne sais pas si vous avez compté, mais c'était à peu près 1 $ et même un peu moins. À vue humaine, ça n'aide pas beaucoup. Et même, le trésorier nous dirait, ça complique, ça nous cause plus de problèmes que ça aide parce que ça complique le dépôt financier. Cela dit, toutes vos pièces, on les accepte et on les aime. Mais en réalité, c'est la réalité, c'est que si on regarde avec les yeux humains, mes petites pièces n'aident pas beaucoup. Ou pas du tout. Ceux qui donnaient beaucoup de pièces étaient nombreux, nous dit le texte. Alors, cette femme qui donne juste 2 pièces, 2 mini-pièces, elle était toute seule dans sa catégorie. Jésus l'observe. Elle donne, on a calculé, environ 1 $. Mais les autres donnaient beaucoup et sûrement que ça faisait beaucoup de bruit quand ils mettaient ça dans la boîte. Voici un exemple de la boîte. Il y en avait 13 dans la partie du temple qu'on appelle la cour des femmes. Alors, il y avait d'abord une cour des non-juifs et eux pouvaient entrer là, mais pas plus loin. Après ça, la cour des femmes, les hommes et les femmes pouvaient entrer et c'est là qu'on pouvait donner des dons en argent pour le trésor du temple. Et il y avait 13 boîtes comme celle-là, une boîte en bois décorée et cette espèce de trompette en haut, tu versais tes pièces, ta monnaie là-dedans, puis ça faisait du bruit. Et la veuve, sûrement, ces deux petites pièces ne faisaient pas beaucoup de bruit. Mais le bruit, c'est pas ça que Jésus remarque. Il a vu, premièrement, que ceux qui donnaient beaucoup, ben, ça ne les affectait pas d'une manière profonde. Ben, il était Dieu, il pouvait voir certaines choses, mais peut-être même dans leur façon de donner. Ils voyaient que ça ne leur a pas coûté grand-chose de décider de donner cela. Leur compte en banque, si je peux utiliser un terme d'aujourd'hui, leur compte en banque restait bien rempli et bien protégé. Un peu comme moi, à vrai dire, quand je vais en ville pour enseigner à l'ETHEC, je prends le métro, je marche sur les trottoirs pour me rendre à l'ETHEC. Et il y a de plus en plus de gens, hélas, dans nos grandes villes, qui sont là pour demander de l'argent. Bien, je remplis mes poches de 25 cents et de 1 $ avant d'y aller. Honnêtement, ça ne me coûte pas grand-chose. J'y reviendrai plus tard. Mais c'est un peu ça que Jésus a remarqué avec ceux qui donnaient beaucoup. Maintenant, cette femme, il a remarqué autre chose. Il a remarqué qu'elle était pauvre. Il a discerné que la décision qu'elle a prise de donner les deux pièces, c'était une grosse décision. Et il a remarqué qu'elle a donné deux pièces. OK? Donc, Jésus avait perçu, wow, tout ce qu'elle a, c'est les deux pièces. Puis elle donne les deux. C'était peut-être de l'argent pour acheter son souper ou acheter une miche de pain pour plus qu'un souper. Elle a donné non pas une des deux, elle a donné les deux. Pourquoi pas en garder une? Jésus voit ta générosité, ma sœur, mon frère. Et s'il veut que tu ailles plus loin, il le voit et il va te l'enseigner. Mais si tu donnes ton maximum, même si, selon les humains, ce n'est pas beaucoup, il le voit. Et c'est tout ce qui compte. C'est lui qui l'apprécie parce que tu le donnes pour lui. Mais es-tu capable de voir la différence entre ton superflu et le meilleur de ce que tu as? Jésus peut t'enseigner. Jésus veut t'enseigner. Parce que c'est vraiment ça qui l'intéresse. J'aimerais maintenant parler de nos dons financiers aujourd'hui, parce que c'est une autre question. Qu'est-ce que ce texte nous dit sur les dons financiers d'aujourd'hui? Et il y a des prédicateurs qui diraient, c'est pas de ça que Jésus parle. Jésus parle du don du cœur, de toute la vie. Mais comme ça inclut l'argent aussi, parlons de notre argent. Mais n'oublions pas, l'argent n'est pas un substitut pour ta vie. Comme moi, je pense que c'est une fausse piste. Bien, c'est une fausse piste. Bien, moi, je ne vis pas selon les principes de Dieu dans ma vie. Par contre, ce n'est pas grave parce que je vais à l'Oasis et je mets un gros chèque dans la boîte noire le dimanche. Non. C'est, tout va ensemble. Ce n'est pas juste l'argent. L'argent, ce n'est pas un substitut pour le reste. C'est pour tous les domaines. Mais aussi, en plus, au niveau de l'argent, c'est vrai dans d'autres domaines aussi, mais il faut être sage, il faut discerner. C'est pas toutes les demandes en argent qui sont valables. Et l'Esprit-Saint, le Seigneur, nous guide. Moi, j'aime aider les pauvres, mais quand même, ceux qui me demandent de l'argent sur les trottoirs, je me sens à l'aise de leur donner des tout petits montants. Puis le but, c'est plus de partir une conversation avec eux que de régler leurs problèmes, parce qu'ils ont besoin de beaucoup plus que du cash pour se sortir de la difficulté où ils sont la plupart du temps. Donc, il faut apprendre à être sage. Ce n'est pas toutes les demandes en argent pour de l'argent qu'il faut, il faut penser que c'est le Seigneur qui nous demande de tout donner. Non. Mais en discernant, mais, et je peux vous dire que normalement, l'Église locale et les œuvres chrétiennes sont des causes valables où l'Esprit-Saint veut nous inviter à réfléchir et à prier quoi donner. Et justement, on va faire un petit exercice maintenant. Je sais que le temps avance, mais on va faire un petit exercice d'école du dimanche pour adultes. Je vous présente un ami fictif. Il s'appelle Hubert. Hubert, c'est un frère qui vient du Cameroun en Afrique, un jeune homme qui est venu faire des études en administration à Montréal. Et il vient de finir un diplôme à l'université. Et par la grâce de Dieu, il est devenu Canadien. Il habite maintenant en appartement et il vient de décrocher un emploi à temps plein. Notre ami Hubert est un chrétien, est-ce que je l'ai dit? Et pendant ses études aussi, il a trouvé une église qu'il aime beaucoup, une petite église, pas l'Oasis, mais à peu près de la même grosseur à Montréal, une église. Et il vient de décrocher un emploi, son salaire, 55 000 par année. Ouais, c'est bien, hein? Mais ça dépend ce que tu cherches, mais 55 000 par année. Il est célibataire. Et il vient vers nous ce matin pour nous poser la question, nous demander conseil. Comment est-ce que je dois décider combien de dîmes ou d'offrandes je devrais donner à mon Église et à d'autres œuvres chrétiennes que j'aime? Alors, je vous pose la question. Quels seraient des conseils que tu donnerais à ton ami Hubert? Qui te demanderait comment décider quoi donner et comment donner. N'importe qui peut proposer une réponse. On va tout mettre ensemble. Et d'ailleurs, je vais même prendre des notes. Je vous écoute. N'ayez pas peur. Oui.
Moi, je dirais qu'il devrait en premier penser à sa famille en Afrique.
OK. Je note famille en Afrique. Ça, c'est très intéressant parce que ça fait partie de notre engagement envers Christ, de pas oublier notre famille. Je note, oui. Donc, c'est un élément important de la réflexion et de la prière. OK. Oui. OK. Alors, selon son cœur, le principe du 10 %, oui, alors, pourquoi 10 %? Parce que c'est le principe de l'Ancien Testament, que souvent, les dons, c'est un dixième de. Un cultivateur était appelé à donner un dixième, parfois, de sa récolte pour l'œuvre de Dieu et des choses comme ça. Mais le un dixième n'est pas répété dans le Nouveau Testament, mais souvent, les chrétiens le prennent comme principe, parce qu'il est dans la Bible. Pense autour du 10 %. Donc, merci pour ça. Et selon ton cœur, merci beaucoup pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres conseils, d'autres réflexions? Oui, Benoît. OK. Donc, pensez à pourquoi tu veux donner, qu'est-ce que tu aimerais que Dieu fasse avec l'argent? OK. Donc, tout ça implique, je pense, du temps dans la prière aussi et de réflexion. Pourquoi tu veux donner? Je note. Oups. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Merci, Chana. Oui, Kai. Ne t'inquiète pas, je vais le trouver. Je t'écoute, Kai.
Je pense à les mots de David quand il voulait acheter le terrain de Sticky pour.
Oui.
Quelque chose d'une personne.
Oui. Oui.
Et David a dit non, parce que ça c'est pas bon de donner quelque chose à Dieu qui m'a coûté rien.
Oui.
Et le principe là que j'ai entendu des fois, c'est comme, c'est quoi? Qu'est-ce que ce serait un sacrifice pour toi? Parce que
okay.
Si on donne quelque chose à Dieu, ça devrait être ça devrait coûter cher. Et okay.
C'est intéressant. Et ça découle, on pourrait dire, de ce qu'on vient de lire. Qu'est-ce que tu vas donner qui va te coûter quelque chose? C'est un peu, on va dire, à l'exemple de David, qui dit, c'était un terrain que, je pense, a fini par être le terrain où le tabernacle a été installé à Jérusalem. Il a acheté le terrain et le propriétaire dit, « Mais je vais te le donner, au roi, je te le donne gratuitement. » Il dit, « Non, je ne peux pas donner à Dieu et à l'œuvre de Dieu quelque chose de gratuit. Il faut que ça me coûte quelque chose. » Alors, merci pour ça. Ça demanderait beaucoup de discussion, mais je crois que c'est vrai. Oui! Oui.
Si j'en fais pas déjà une priorité, je ne sais pas peut-être le pourcentage avec le Seigneur.
OK. Donc, si je te comprends bien, c'est un petit peu. Il faut que tu vois ça comme les besoins dans ta vie qui sont dans ton budget. Un peu comme ton épicerie ou autre. Et même, si je peux renchérir là-dessus, parce que le temps avance et on vient juste de commencer, peut-être on y reviendra plus tard dans l'année, mais il y a un principe que mon beau-père m'a enseigné, parce que je me suis marié dans une famille vraiment chrétienne hardcore, et puis lui a écrit des livres sur un livre sur dîmes et offrandes. C'est un pasteur, il est décédé maintenant, mais il m'a dit, « Marc, paye Dieu d'abord. Paye Dieu d'abord. » Wow! Mais je pense que c'est vraiment un principe que Cheryl et moi, on essaye de pratiquer, c'est-à-dire, on reçoit nos payes, et même, on aimerait, avant même de payer nos impôts, on ne peut pas parce que nos impôts sont retenus à la source. Donc, le gouvernement prend en premier. Mais avant de payer les autres choses puis voir qu'est-ce qui reste, on paye les dîmes et offrandes avant. Et ensuite, on voit qu'est-ce qui reste. Et l'idée, c'est on le fait par la foi. Et Dieu bénit ceux qui sèment abondamment. Dieu va leur faire de moissonner abondamment. Et OK, on va arrêter la conversation là, mais voyez qu'il faut aller plus loin. Pauvre Hubert, et on vient juste de lui donner quelques conseils. Peut-être on reparlera avec Hubert une autre fois, mais j'ai un verset ici que je voulais mettre et que c'est Marie-Jeanne qui a mentionné le principe, mais il est dans la Bible. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et je pense à cette veuve, que si elle a vraiment fait ça devant Dieu, et j'ose croire que oui, c'est ce que Jésus a vu et a apprécié en elle, eh bien, elle n'a pas regretté après, dire « Ah, j'aurais dû garder la deuxième pièce ». Non, elle a donné avec joie et sans contrainte, en gardant la foi que Dieu va pourvoir à ses besoins. Alors, on va conclure maintenant, et les musiciens pourraient peut-être venir et s'installer, même commencer à jouer. Ce matin, Jésus nous a montré un exemple. La semaine dernière, on a vu un autre exemple avec Mélodie de quelqu'un qui a donné tout ce qu'elle a pu. Et c'était le vase de parfum très cher. Et c'est pas la valeur, vous voyez que c'est pas le montant qui compte. C'est la décision du cœur qui est venue avant. Jésus a vu dans ces deux gestes une prophétie de la Nouvelle Alliance. Lui va tout donner. Dieu a donné non pas de son superflu pour toi, il a donné tout son cœur, tout son être à la croix pour toi. Il t'a aimé totalement pour que tu puisses l'aimer totalement. La Bible dit que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche. Il s'est fait pauvre alors qu'il était riche. Afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Crois-tu en ce sacrifice? Est-ce que tu crois que c'est pour toi? Je t'invite, si tu n'as pas encore donné ta vie en retour à Jésus, de le faire ce matin. Je t'invite à donner ton cœur, ta vie, toute ta vie au Seigneur. Même si tu ne comprends pas beaucoup de choses, mais donne-lui ta vie pour que lui t'enseigne comment être entier pour lui. Je t'invite à prier alors que la musique joue. Et peut-être, si tu veux, tu peux lever ta main comme ça pour dire « Je donne ma vie ». Tu peux te lever comme tu veux. Je vais prier. Prie avec moi. Oh Seigneur, merci que ton esprit est ici ce matin en train d'inviter toujours des personnes à s'approcher de toi, à accepter ton sacrifice, à dire au revoir à l'ancienne manière de vivre pour soi-même et vivre pour toi. Toi qui as tout donné. Oui, Jésus, je veux donner ma vie. Je veux me consacrer à toi. Je veux apprendre à être un meilleur chrétien. Je veux apprendre à être ton disciple. Je veux prendre exemple sur cette veuve et être tout entier pour toi et donner tout ce que je peux. je donne ma vie. Au nom de Christ, nous prions. Amen.